Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 667 du podcast Touch en Actu en Amatei. Très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer l'actualité de la NFL. Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Grégory Richard est également là, bonjour Grégory.
Bonjour messieurs et bonjour à tous.
Messieurs, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle star, d'une star qui revient en forme et de quelques matchs compliqués. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Victor m'a dit la semaine dernière que c'était la meilleure semaine de la saison régulière pour lui. Juste, j'ai pas l'habitude de faire un global avant, mais est-ce que vous avez trouvé que c'était la meilleure semaine de la saison régulière?
Ce week-end là?
Ouais.
Je sais pas.
C'était fun. Fun,
sous le prisme du Eagles Cowboys peut-être, mais
très bien.
On va parler de beaucoup de matchs, je pense, où on s'est bien fendu la poire. On pourra dire qu'on a vraiment bien profité du week-end.
Bon, et ben on va décortiquer tout ça dès maintenant.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Texans 39, Buccaneers 37, match complètement fou et peut-être l'avènement d'une nouvelle star. CJ Stroud a trouvé Tank Dell sur une passe de 15 yards à 6 secondes de la fin pour la victoire. De quoi conclure une fiche statistique monstrueuse pour CJ Stroud. 30 sur 42, 470 yards, 5 touchdowns, aucune interception. 470 yards, c'est un record pour un quarterback rookie. Messieurs, est-ce qu'on a des indices qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle star dans la ligue, Raphaël?
Des indices, oui, on va dire oui, on a envie d'y croire en tout cas, on sait très bien, hein, ça c'est un propos plus global, mais cette ligue est quand même plus sympa quand il y a beaucoup de bons quarterbacks. On a globalement pas intérêt à ce que la ligue soit composée de lanceurs mauvais, donc forcément on est en attente de superstars. Et c'est vrai que là, CJ Stroud a peut-être mis un petit peu ce qui manquait depuis ce début de saison. Il était bon, il avait peu de pertes de balles, mais il lui manque un peu le match... explosion, feu d'artifice, où ça lance dans tous les sens et où il va chercher une victoire dans le quatrième quart-temps. Il l'a sorti ce week-end. Peut-être pas, je sais pas si c'est au meilleur moment, mais en tout cas, il l'a sorti ce dimanche contre les Buccaneers. Et c'est vrai que ça a été impressionnant dans la manière, parce qu'au-delà des statistiques, je trouve qu'il y a l'impression dégagée. Pas de perte de balle, une sérénité dans la poche. Mais ça, on en avait déjà un peu parlé en cours de saison et ça s'est encore confirmé. Et puis ce sang-froid pour aller chercher le drive de la victoire, parce que tu parles de la passe pour Tank Dell à 6 secondes de la fin, mais c'est un drive, il récupère la balle avec 40 secondes à jouer, pas de temps mort de mémoire depuis ses 20 ou 30 yards, je sais plus exactement. Enfin voilà, la remontée de terrain est impeccable. Alors bien sûr, il y a la défense en face qui l'aide peut-être un peu, mais en tout cas sur ce qu'il montre, c'est une superstar en devenir.
sur le dernier drive, en effet, Grégory, 46 secondes à jouer, il sort un 5 sur 5 ou 4 sur 4, je veux pas dire de bêtises, mais il y a un calme, une maîtrise, une deuxième mi-temps à plus de 300 yards d'ailleurs, alors que la première avait été moins féroce, hein, face à une défense de vétérans, mine de rien, de Tampa Bay. Donc cette capacité à prendre en main les choses dans les dernières secondes, c'est quand même assez impressionnant, Grégory.
Oui, c'est ce que j'allais mettre en avant. C'est vrai que c'est qu'au-delà des stats purs et durs, on va dire, il y a le langage corporel, il y a ce qu'il a l'air de dégager dans cette jeune attaque au dans long du côté de Houston. Il n'y a pas des receveurs superstars comme dans d'autres franchises pour éventuellement lui permettre de se développer. Et il arrive pourtant à bien appuyer sur des profils comme Noah Brown, Dalton Schultz. Et ça rejoint un petit peu cette donnée-là. C'est-à-dire que après le premier fumble, notamment de Schultz, on aurait pu se dire que un quarterback rookie allait se poser quelques questions. Non, il rejoue directement sur son tight end pour le remettre en confiance. Et c'est des petits signes également qui contribuent à ça. Et après, voilà, il y a des lancers extrêmement clutch. Je pense notamment au premier touchdown, je crois, de Tank Dell avec une passe arc-en-ciel qui est vraiment millimétrée. Si on y ajoute en plus le côté clutch qu'il peut avoir, même sur cette phase improvisée avec cette remise latérale de Devin Singletary, on se rend compte que voilà, c'est un joueur qui malgré tout a l'air de sentir le jeu. C'est pas le quarterback le plus mobile de la ligue, très clairement. C'est un joueur qui doit encore progresser sur certaines choses, mais qui en tout cas ne commet pas de perte de balle, très peu. Je crois que c'est une seule interception encore après 9 semaines de saison régulière, en tout cas après 8 matchs joués par les Texans. Donc pour l'instant, ça contribue à miser sur cette insouciance des Texans et sur ce bilan en progression au fil des semaines.
Ouais, si on reste sur les indices, moi je trouve que tu l'as un peu évoqué, il bonifie ce qu'il y a autour de lui, et ça aussi c'est quand même ce que font les grands quarterbacks généralement. Sur ce match, Noah Brown, 6 réceptions, 153 yards, un touchdown. Dalton Schultz, 10 réceptions, 130 yards, un touchdown. Tank Dell, 6 réceptions, 114 yards, 2 touchdowns. Nico Collins prend 3 réceptions pour 54 yards et un touchdown encore une fois. Donc moi je trouve cette capacité à bonifier les autres aussi, c'est un signe qui ne trompe pas.
Et c'est, ouais, j'allais dire, j'ai juste rajouté, c'est d'autant plus louable qu'il faut quand même rappeler un petit peu le scénario. Je pense que t'allais en parler tout à l'heure. Il y a une situation où le kicker de Houston se blesse pendant la rencontre. Donc, du coup, même si, il y a eu la belle histoire par la suite dont tu as sûrement parlé, on s'est retrouvé dans une situation du côté de Houston où on s'est dit, si c'est comme ça, on va jouer toutes les quatrièmes. Donc là aussi, c'est typiquement le genre de scénario qui peut vraiment brider ton quarterback rookie. Et au contraire, ça l'a fait surfer un peu plus, ça l'a conservé dans la zone, comme on dit. Et ça a vraiment été compliqué de bout en bout pour cette défense de Tampa Bay.
Raphaël, ça a sublimé le quarterback, ça sublime le coach aussi quand même, parce qu'il faut parler des DeMeco Ryans. Il y a un truc qui se passe, Greg le dit, ils perdent leur kicker en cours de match. Il y a le coureur Dare Ogunbowale qui doit s'y coller, qui réussit un field goal de 29 yards. C'est quand même des trucs, comme le disait Grégory, ça peut faire craquer un jeune quarterback, ça peut faire craquer un jeune coach aussi normalement.
Oui, ça aurait pu faire craquer un jeune coach, effectivement, mais DeMeco Ryans a l'air d'avoir installé vraiment une dynamique de groupe, de tenir ses hommes. Ça a l'air d'être un leader, hein. C'était déjà un peu quand même les échos qu'il y avait quand il était coordinateur défensif du côté de San Francisco, ce côté leader d'hommes. Pour le coup, ça se revoit déjà, j'ai envie de dire, du côté des Texans. Il perd papier, il a fait le bon coaching, il a pris les bonnes décisions, alors comme vous l'avez répété, alors que le contexte aurait pu amener à faire quelques choix plus douteux pour le coup. Il s'est sorti de ce piège-là malgré le contexte. Donc, il surfe sur ce qui semble être le jackpot au poste de quarterback rookie. Et lui amène ce qu'il faut en tant que leader. Donc, pour le moment, les Texans, alors bien sûr, ça demande à confirmer, mais les Texans semblent avoir tiré l'énorme gros lot de l'intersaison entre un potentiel coach leader au top et un quarterback rookie au top, donc à confirmer, mais c'est de bon augure.
Et après ce match, ils sont à 4 victoires, 4 défaites, ce qui est quand même assez... on va pas dire qu'on l'avait pronostiqué, ce 4-4 des Texans, donc ça va être vraiment intéressant à suivre. Encore une fois, avec un des quarterbacks qui est quand même un des plus en forme de la ligue, hein, rookie ou pas rookie d'ailleurs, hein, c'est un des quarterbacks les plus en forme de la ligue. Grégory l'a dit, une seule interception pour 14 touchdowns, donc on est vraiment sur une immense performance.
Et si tu me permets, là, en ayant quand même joué des défenses qui n'étaient pas les premières venues, parce que si on prend des victoires des Texans, ils vont par exemple gagner à Jacksonville, largement contre les Steelers. C'est des défenses aujourd'hui que n'importe quel quarterback NFL attend pas forcément de jouer avec impatience, enfin en tout cas... s'attend à jouer avec une certaine appréhension, et pourtant c'est des matchs où il a été plus que solide et il a contribué à la victoire de Houston sur ses rendez-vous.
C'est vrai que leurs 4 victoires, c'est Jaguars, Steelers, Saints, Buccaneers. Hein, donc c'est vraiment des défenses quand même à minima solides dans ces rencontres. Pour les Buccaneers, justement, ça fait quand même mal. Rachaad White était enfin sorti de sa boîte. Baker Mayfield mène l'attaque jusqu'à un touchdown pour passer devant à 46 secondes de la fin, on l'a dit. Ils sont à 4 sur 5 dans la end zone. Donc ils ont quand même plutôt bien fait les choses. Tampa, ils marquent 37 points, ce qui leur arrive quand même pas souvent cette saison. Ils sont juste face à une équipe en état de grâce, Raphaël. C'était vraiment un de ces soirs-là.
Oui, bah il y a quand même la défense hein, qui prend malgré tout. Alors on a beau mettre en avant les qualités de CJ Stroud, t'as quand même une défense aérienne qui se fait découper dans tous les sens et ça plante Tampa Bay parce que d'habitude c'est l'attaque qui patine un peu. Là ça a pas été le cas pour le coup. Tu l'as dit, hein, y a quand même un White au poste de coureur qui est en train de depuis 2-3 semaines d'être un peu mieux, ce qui aide forcément cette attaque. Mais pour moi c'est la défense là-dessus. Il tombe sur un quarterback en face des grands soirs, mais cette défense-là a pas fait ce qu'il fallait pour aider l'attaque, donc ils perdent défensivement ce match.
Greg, un mot ou on passe au match suivant ?
Oui, non, Raph a globalement tout dit. Beaucoup de pénalités également. Il y en a du côté de Houston, mais si du côté de Tampa on avait été un tant soit peu plus discipliné, je pense par exemple à cette faute largement évitable de Chuck Barrett en début de match qui permet justement à Houston de rester dans le bon rythme pour lancer justement les hostilités offensivement. Voilà, c'est des petits éléments à corriger de la part de Todd Bowles.
Bills 18, la bonne forme des Bengals qui continue. L'attaque est complète, Joe Burrow est affûté, ils sont définitivement de retour parmi les favoris de l'AFC, Raphaël.
Oui, ils sont de retour. T'as résumé, attaque affûtée, défense complète, tout le monde est revenu en forme, et notamment physiquement pour le coup. Là, on a un match où en plus, pendant longtemps, les Bengals dominent avec un Jamar Chase qui est pas transparent, mais qui est un peu réservé au moins toute la première mi-temps. Et Burrow insiste sur Higgins, trouve d'autres cibles. On voit même un peu les tight ends être un peu plus utilisés que par le passé, je trouve. Donc offensivement, c'est en train vraiment de se régler. Et on voit que cette défense coachée par Luana Rumo est revenue au très bon niveau de ce qu'on lui connaissait l'an dernier. Donc comme tu dis, ils sont lancés là. Ils ont repris les bonnes choses en main et ils vont être compliqués à déloger. Donc c'est le retour des Bengals.
Ils ont mené tout le match, ils n'ont jamais été menés, ils ont démarré fort, la défense a bien tenu, l'attaque a mangé le chrono en fin de match, 397 yards, pas de ballon perdu. Grégory, ils sont injouables dans ces conditions-là.
Oui, de toute façon, on ne découvre pas que oui, offensivement, Cincinnati est capable de faire des prouesses comme ça, en plus avec un Jamar Chase qui a été relativement bien surveillé et qui en plus se blesse en fin de rencontre, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, on commence à avoir un Burrow à plus ou moins 100%, un Higgins plus ou moins 100% aussi. Ça commence à être des armes assez importantes. Il n'y a toujours pas forcément un jeu au sol, même si Joe Mixon arrive à apporter cette variété à la réception. Il y a toujours un jeu au sol qui peut poser problème sur des rendez-vous un peu plus coup près. Mais là, en ayant battu et San Francisco et Buffalo, ils envoient quand même un gros message, sachant qu'ils vont quand même affronter beaucoup d'adversaires d'AFC Nord pour potentiellement aller chercher le titre de division par la suite.
Du côté des Bills, c'est encore irrégulier offensivement. Il y a des gros creux, notamment en première mi-temps. Eux perdent en plus de ballons. On a du mal à voir comment ça peut changer. Il y a toujours des éléments intéressants avec Josh Allen, mais il y a cette irrégularité à laquelle il va falloir s'habituer visiblement, Grégory.
Oui, moi pour moi, une irrégularité qui passe avant tout par le coaching staff. J'ai du mal à comprendre ce que veut installer Ken Dorsey depuis qu'il est coordinateur offensif de cette équipe de Buffalo. D'une semaine à l'autre, en effet, on voit un visage un petit peu différent. Alors, c'est vrai qu'on avait été un petit peu ébouriffé par ce qu'on avait vu contre Miami, mais ça avait été très tributaire, je trouve, du match-up entre Stephon Diggs et Kader Kohou. On avait vu également des bonnes choses sur les derniers matchs, notamment avec l'incorporation d'un système no huddle en attaque qui semblait correspondre à Josh Allen. Bon, bah visiblement, on a décidé de jeter ça à la poubelle. En tout cas, en première mi-temps, avec, comme tu l'as dit, un rendu plus que mitigé. Donc j'ai du mal à comprendre ce qu'on repart sur du côté Josh Allen show où on a presque l'impression qu'il n'y a pas d'appel de jeu et que c'est Josh Allen qui décide en son âme et conscience de ce qu'il va faire. Et forcément, ça mène rarement bien loin du côté de Buffalo. En tout cas, c'est rarement signe de succès ces derniers mois.
Raphaël, c'est Bills inquiet sur le long terme à cause de cette attaque ?
J'étais inquiet avant le début de la saison. Je reste inquiet. Encore une fois, pour préciser le propos, pas inquiet dans le sens que Buffalo n'est pas capable de gagner des matchs. Ils vont en gagner, ils iront probablement en play-off. à vérifier, mais je pense
ils sont virtuellement éliminés à l'heure actuelle.
Ouais, pour le moment, ils sont éliminés, effectivement. Ouais. Bon, il reste encore quelques matchs.
Oui.
Ce que je veux dire par là, c'est inquiet sur leur capacité à aller au bout, parce que c'est ça que veut cette équipe et c'est à ça qu'elle prétend. Et je suis inquiet là-dessus, parce qu'en attaque, Greg l'a dit, il y a les problèmes de coaching dont on parle, et une tendance à trop se reposer sur le Josh Allen en mode héros, et je pense que tu peux pas aller au bout en misant que là-dessus. Et la défense, moi je trouve que cette défense, depuis 2-3 semaines, alors il y a des blessures, assurément, mais cette défense, depuis 2-3 semaines, n'est pas terrible. Et elle n'arrive pas à bloquer les meilleures attaques de la ligue, et ça va poser problème si elle revient pas au niveau. Et voilà, donc moi je pense qu'il y a un problème défensif aussi là actuellement qui est en train de se poser. Je dis pas qu'ils peuvent pas la régler, et notamment avec des petits pépins physiques, s'il y a des absents qui reviennent, ça peut aider. Mais le tout dans le tout, je suis pas hyper convaincu par cette dynamique côté Buffalo.
Eh bien, en parlant de défense et d'AFC Nord, partons tout de suite du côté de Cleveland avec la victoire 27-0 des Browns face aux Cardinals. Alors, le pauvre Clayton Tune, le rookie du 5e tour, lancé pour son premier match NFL contre une des meilleures défenses NFL. Résultat, 58 yards sur l'ensemble du match pour l'attaque des Cardinals. 7 sacks, de la pression sur 56,3% de ses tentatives de passe, 3 ballons perdus. Bon, il y a rien à tirer de ce match pour Arizona. On peut commencer par eux parce que Clayton Tune, il était envoyé à l'abattoir, si j'ai bien compris. C'était vraiment bon. Murray est prêt, mais on va pas l'envoyer là-dedans, quoi.
ça ressemblait vraiment à ça. C'est le veau sacrificiel qui a envoyé, ou l'agneau de Pâques que tu sacrifies. Comme tu dis, il a été harcelé. Hein. C'était vraiment Jim Schwartz. Il arrive avec un plan. C'est l'harceler en permanence pour que le pauvre rookie ait pas le temps de se mettre la tête à l'endroit. Et ça a marché. Donc offensivement, il y avait pas grand chose à en espérer. On l'a vite compris. Hein.
Grégory, le pauvre Clayton Tune, il avait montré mieux que ça à la fac, je suppose.
Oui et non, parce que sinon il n'aurait pas été 5e tour de draft, mais oui, on a clairement vu ses limites dans un système où qu'il encourageait à beaucoup beaucoup lancer. Là, manifestement, oui, contre une ligne offensive qui a été très rapidement débordée par la force de frappe défensive de Cleveland, incarnée notamment par Miles Garrett et Dalvin Tomlinson, ça devenait assez compliqué d'installer quoi que ce soit. Et de toute façon, l'attaque d'Arizona depuis le début de la saison, alors on pouvait taper un petit peu à raison sur certains matchs sur Joshua Dobbs, on se rend compte que voilà, tout simplement il y a un manque de talent global et sur la ligne et sans doute également derrière le centre. Donc voilà, on peut espérer avec potentiellement le départ de la titularisation de Kyler Murray le week-end prochain qu'on ait enfin peut-être un visage différent du côté des Cardinals, mais il faudra peut-être pas s'attendre à des miracles non plus.
Bon, l'info de ce match, c'est évidemment le retour de Deshaun Watson, 19 sur 30, 219 yards, 2 touchdowns, aucune interception. C'est le baromètre de ces Browns, en tout cas en attaque, hein, c'est celui qu'on suit le plus. Il a été bon par séquence, Raphaël.
Oui, il a été bon par séquence, effectivement, notamment sur le jeu de passe un peu plus en profondeur. Il a été un peu mieux que ce qu'on avait pu voir sur ce début de saison. Après, comme tu dis, il y a encore d'autres séquences où il y a aussi des passes imprécises qui entraînent des passes non complétées, qui ralentissent l'attaque. Donc, bon, encore une fois, c'est pas ce qu'on attend d'un quarterback signé à ce prix-là, et c'est pas ce que Cleveland en attend. Mais maintenant, je pense qu'il y a un moment, faut juste qu'il enchaîne les matchs, en fait. Enfin, ouais. Je veux dire, il a manqué trop de matchs. Maintenant, faut juste qu'il puisse enchaîner et voir ce qu'ils peuvent en tirer de plus. Enfin.
C'est un match qu'on a mis haut parce que c'était logique de le mettre derrière les Bengals, et parce que c'est la même division et parce que c'est des équipes qui sont au classement. Mais c'est vrai que Grégory, on a du mal à tirer des enseignements. C'est un échauffement pour Deshaun Watson, quoi. On a observé
ça. C'est ça. Après, ça contribue à rajouter un petit peu de confiance. On a vu que sur les matchs gagnés notamment par Cleveland à la maison cette année, il y avait quand même pas mal de matchs où c'était gagné de manière assez sereine. Hein. Faut remonter un petit peu dans le calendrier, mais j'ai souvenir des matchs contre Cincinnati ou Tennessee, par exemple, où ça avait été quand même une petite promenade de santé pour les Browns. Donc voilà, s'il y a des rencontres où ils évitent de se faire des frayeurs, où ils font un petit peu tourner l'effectif, où ils restent chauds justement en vue des confrontations intra-division, je pense que c'est le principal. Mais c'est sûr que c'est pas de ce match-là que tu vas tirer les principaux enseignements pour la suite.
Bon, Amari Cooper signe un gros match, 5 réceptions, 139 yards et 1 touchdown. On reste du côté de... Alors, bon, pour l'ordre des matchs, moi j'ai eu un peu de mal, honnêtement. J'ai pas trouvé que c'était la semaine la plus homogène.
Là, on va commencer à se régaler, là.
Voilà, c'était pas la semaine la plus homogène. Alors, je vous propose de rester en AFC avec une victoire des Raiders contre les Giants. 30-6. pour Las Vegas. Premier match sans Josh McDaniels, première victoire pour les Raiders. Ils menaient 24-0 à la pause. Il n'y a pas eu de match, on est clairement dans le sursaut d'après coach viré. Et surtout, un nouveau coach qui a l'air de ne pas être haï par ses joueurs. Est-ce qu'il y a un début de quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que c'était au niveau du plan de jeu que ça s'est joué? Grégory, pour toi, qu'est-ce qui fait que Vegas passe un 30-6 aux Giants?
Alors il y a tout un tas de choses. Si je reste sur le volet principal, à savoir le volet offensif, paradoxalement qui était censé être le domaine de prédilection de Josh McDaniels, on se rend compte que pour la première fois cette saison, on a un running back qui franchit la barre des 80 yards, ce qui est pas Byzance hein, en NFL, mais quand on a un joueur de la cabine Josh Jacobs, on s'attend quand même à ce que ce soit un petit peu plus fréquent. C'est le premier match où les Raiders marquent plus de 21 points, pardon, je vais y arriver. Donc ça en dit beaucoup sur justement les mots de cette équipe-là, avec un coach offensif, et avec un coach qui avait la réputation de spécialiste offensif, et des joueurs qui étaient censés justement développer un petit peu cette attaque. Là, globalement, alors, ça a été un petit peu, c'est pas forcément l'attaque qui a le plus été mise en avant, parce qu'à mon sens, il y a des interceptions qui tuent littéralement les Giants dès la première mi-temps. Mais voilà, ça a été extrêmement solide en attaque. Un rôle de game manager pour Aidan O'Connell, et globalement des bons appels de jeu, j'ai trouvé, de la part du nouveau coordinateur offensif, Boar Degree.
Oui, alors c'était Aidan O'Connell aussi, l'attraction, 16/25, 209 yards. Raphaël, il a été plutôt solide.
Oui, c'était bien mieux que son premier match, ce qui laisse quand même aussi, là encore, comme Grégory l'a laissé sous-entendre, un peu songeur, parce que McDaniel, c'était censé être le cerveau offensif, et finalement, le rookie était bien plus à l'aise dans ce match-là que la première fois sous McDaniels. Game manager, comme vous l'avez dit, pas d'erreur, des lancers dans le tempo, non, c'était plutôt pas mal. Alors, je sais pas ce que Las Vegas va décider pour la suite, mais c'était plutôt pas mal.
C'était en effet aussi marqué par les 98 yards de Josh Jacobs. Au miracle, on s'est rappelé qu'on avait le meilleur coureur de la saison dernière dans ses rangs. 3 sacs pour Max Crosby en défense, ce qui nous amène sur le supplice des quarterbacks de New York. 2 sacs sur Daniel Jones, sorti sur blessure au genou, saison terminée. On parlera de la suite dans l'émission preview de la semaine avec Raphaël et Raoul. On va rester sur ce match. 6 sacs derrière sur Tommy DeVito. Donc d'abord Jones, ligament croisé, on l'a dit, saison terminée, etc. Enfin, sur ce match, ils sont tous les deux victimes de la ligne offensive, en fait, pour faire simple.
Oui, c'est sûr qu'en plus, sur ce match-là, malheureusement, Andrew Thomas revient, mais apparaît quand même un petit peu limité. Je sais pas s'il est encore à 100% l'ancien lineman de Georgia, mais Tommy DeVito, je le répète, mais bon, c'est un drive. C'est un drive pour éventuellement permettre aux Giants de recoller à 27-6. Je crois qu'il y avait déjà 27-0 quand ils marquent le touchdown, les Giants. Mais il y a quasiment rien entre temps, quoi. Donc je veux pas taper dessus gratuitement, mais c'est.
Dans un le front jeudi, on a dit.
C'est... non, mais voilà, c'est pas digne d'un quarterback NFL à mon sens. Et voilà, on continue de toucher les limites. Si les Giants veulent rester avec Tommy DeVito, alors là, malheureusement, c'était peut-être pas prévu au départ. Il va quand même falloir une autre assurance, parce que voilà, si tu te retrouves à marquer pas plus de 10 points chaque semaine, ça va être très très compliqué quand même pour espérer aller plus loin, ou en tout cas essayer d'apporter un peu de dynamisme au groupe qui est en place, même si l'objectif annoncé, ça peut potentiellement être le tanking.
Raphaël, sur ce match-là, on a vu quoi? On a vu une équipe qui a perdu Leonard Williams en plus au moment des transferts, qui a plus de quarterback, enfin, c'est un champ de ruines.
Ouais, c'est vraiment compliqué. Alors, offensivement, on a vu ce qu'on voit depuis, j'ai envie de dire, le début de la saison, grosso modo. Enfin, il faut quand même se rappeler que les Giants n'ont pas fait de grands matchs offensifs, alors peut-être un match pas trop mauvais où Saquon Barkley avait été bon, mais globalement, c'est mauvais depuis le début de la saison, c'est dans la continuité. Alors, ça l'est peut-être encore plus avec DeVito parce qu'il n'a pas le niveau, parce que tout ça, mais c'est pas la surprise. Moi, ce qui m'a plutôt étonné quand même, et ce qui m'inquiète pour la suite, et on en reparlera peut-être aussi jeudi, c'est la défense. C'est qu'on avait une défense qui, ces deux dernières semaines, ou trois dernières semaines, notamment depuis le match contre Miami, semblait un peu mieux, et qui là, craque complètement, explose. Alors, bien sûr, ils sont pas aidés parce que l'attaque perd beaucoup de ballons, et donc ça remet la défense beaucoup en jeu, tout ça, mais globalement, ils se font quand même complètement percer par l'attaque des Raiders, qui venait d'avoir un nouveau plan de jeu, un nouveau coordinateur, enfin... Donc c'est inquiétant parce que l'équipe est en train d'exploser de toutes parts. Il y a Xavier McKinney, le safety capitaine, qui dit les autres capitaines ne se donnent pas assez. Il sort dans la presse pour dire ça. Bon, Encore une fois, quand les joueurs commencent à beaucoup parler dans la presse, en plus à New York, ça peut vite partir en cacahuète, comme on dit, ou comme on dit plus, j'en sais rien d'ailleurs si on dit ça ou pas. Mais voilà, c'est inquiétant.
Tu dis ce que tu veux ici, tu es chez toi. Oui, bah ça, vous referez un bilan plus large, mais en effet, il y avait pas grand-chose dans ce match pour les Giants. Petite anecdote, parce que tout le monde a peut-être pas lu l'article sur le site. Est-ce que vous avez quand même apprécié cette anecdote là sur la sortie de Josh McDaniels? Moi, je me suis régalé, donc il faut que j'en parle. Donc on explique aux gens qui n'ont pas suivi. Apparemment, quelques jours avant le match des Lions, perdu contre les Lions, donc qui était le dernier de Josh McDaniels, il y a eu une réunion avec les joueurs et ils se seraient tous défoulés grosso modo sur Josh McDaniels en lui disant tous ses quatre vérités. Derrière, Antonio Pierce a pris la parole au nom de Josh McDaniels et aurait rappelé à toute l'équipe qu'il fallait jamais s'avouer vaincu et que c'est comme ça que lui et les Giants avaient battu les Patriots de 2007. Manque de bol, ils étaient coachés en attaque par Josh McDaniels. Et donc, quand les joueurs sont partis, McDaniels aurait dit à Antonio Pierce, ne parle plus jamais des Patriots comme ça.
Après, alors, on découvre pas le côté très très égocentrique un peu de Josh McDaniels et le côté très caractériel. Encore une fois, il a jamais été réputé comme étant un personnage très très agréable, adepte du savoir-vivre. Maintenant, je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être pas involontaire de la part d'Antonio Pierce. Dans une journée où les joueurs se sont déjà essuyé les pieds sur Josh McDaniels, aller s'amuser à rappeler ça, bon, je pense que voilà, il se doutait très bien que McDaniels allait réagir comme ça. Donc après, forcément, ça fait réagir parce que bah avec le bouche à oreille, ça dépeint un petit peu plus McDaniels comme un sagouin. Mais voilà, je connaissant en plus le personnage d'Antonio Pierce, j'ai du mal à me dire qu'il y a peut-être pas une petite arrière-pensée derrière.
Alors après, ceci étant dit, j'entendais dans un podcast américain, en l'occurrence The Athletic, ils ont eu une remarque très pertinente, je trouvais, c'était que la fin de McDaniel, c'était aussi un peu la fin d'une époque, qui était cette époque des coachs ultra autoritaires, etc., avec le rapport coach-joueur, il a quand même changé ces dernières années. Et que c'est le symbole de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu réfléchis maintenant, il n'y a plus beaucoup de coachs ultra autoritaires à part Belichick, et on a bien vu que ça n'a jamais marché pour aucun des mecs qui sont sortis de là. Et le contre-exemple, c'est DeMeco Ryans dont on parlait tout à l'heure, Robert Saleh dont on parlera avec les Jets, etc. Le rapport, il a changé, quoi. Mmh. Donc,
Oui, parce que Belichick s'est bâti aussi cette autorité naturelle, parce qu'il y a eu les résultats avec les Patriots dans la collaboration avec Brady au fil des deux décennies. Mmh. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué quand t'es un coach. Alors là, c'est pas le cas de McDaniels, mais il suffit que tu sois un coach un peu plus vieux, parce que dans cette crise de jeunisme global des coachs NFL, c'est sûr que pour te faire respecter, coucou Greg Schiano, c'est un peu compliqué, par exemple.
Bah c'est ça, et puis encore une fois on est en 2023, peut-être qu'on peut plus coacher aussi comme on coachait en 2000, quoi.
C'est ça.
Bon, ça paraît évident.
Ouais, mais c'est pas une mauvaise chose, quoi, aussi cette fin de cycle, je trouve.
Mais je salue encore Mark Davis, qui a attendu quand même que les Raiders se débarrassent de Derek Carr par exemple, pour se dire tiens, peut-être que mon head coach et mon general manager ne font pas du bon travail. Ça, c'est intéressant. Ouais,
Attends, quand t'as acheté un truc, je sais pas, très très cher, tu vois, tu t'es payé, j'en sais rien, une belle paire de pompes ou une bagnole ou j'en sais rien, tu vois, et tu sens que tu regrettes l'achat, mais tu te dis quand même, j'ai mis beaucoup et j'ai déjà beaucoup de dettes, peut-être que tu sais, il a essayé de tirer en espérant qu'à un moment ça tourne.
Il y a eu Gruden avant, etc. Enfin,
c'est pour ça que je dis.
Gruden McDaniels, en termes de recyclage, là tu vois le tri sélectif, c'est pas le genre de Mark Davis, quoi.
Non, mais en fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il doit déjà encore devoir une fortune à Gruden.
Oui, bien sûr.
Oui, j'en doute pas. Ouais.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'il réfléchit.
Surtout qu'ils sont, ils sont pas devant les tribunaux à l'heure actuelle, en plus.
Si, si.
Ah, c'est possible avec l'histoire de licenciement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, il est tellement endetté, si tu veux, sur ses coachs. Je me disais peut-être qu'il attendait en espérant. Tu vois,
je crois qu'il y a un moment, l'endettement, faut juste prendre les bonnes décisions pour arrêter de s'endetter. Tu vois,
mais tu vois, je veux pas faire trop long sur les Raiders, mais ça fait un petit peu écho à ça. Quand on voit les joueurs, par exemple, qui fument un cigare dans les vestiaires, qui sont là en mode pompe-pelop, alors qu'ils viennent de battre quand même les Giants, qui sont au fond du trou depuis des semaines et des semaines. Et j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas un aspect communication pour dire, vous voyez les gars, maintenant, sans McDaniel, c'est Club Med. Ça règle pas tous les problèmes. On l'a dit, le calendrier des Raiders depuis le début de la saison, il est quand même assez clément malgré tout par rapport à d'autres équipes. Donc, on va pas cracher sur leur bilan de 4 victoires, 5 défaites. Si ça repart dans le bon sens, tant mieux. C'était le moment pour. Mais ouais, faut se méfier quand même de ce qui se passe actuellement, même s'il y a eu ce petit bol d'air frais face à New York.
Bon, petite pause, et puis la suite des événements.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Et on va ouvrir, messieurs, avec le match de l'AFC, toujours entre les Jets et les Chargers. 6 pour les Jets, 27 pour les Chargers, un match très défensif. 8 sacs pour Los Angeles, on va peut-être commencer par ça, parce que autant les Jets, on sait que c'est défensif. 8 sacs pour Los Angeles, c'est quand même plus rare. Ils sont pas une équipe défensive à la base. C'est une bonne nouvelle, Raphaël, pour eux, cette sortie ?
Oui. Ouais, ça reste une bonne nouvelle, même si depuis plusieurs semaines, je trouve que la défense allait quand même globalement mieux, hein, du côté de Los Angeles. C'est pas encore forcément ce à quoi on s'attendait, mais c'était mieux que les 2-3 premiers matchs de la saison. Après, t'es fort, voire très fort, parce qu'il y a une adversité qui te permet d'être aussi à ce niveau-là.
En effet, l'adversité n'était pas incroyable, mais j'essayais de trouver du positif. Grégory.
Je pense qu'on peut le dire. Hein. J'ai pas souvenir de tous les matchs des Chargers depuis le début de la saison. C'est leur prestation défensive la plus aboutie. C'est enfin un match où on voit notamment, alors enfin, pas que, hein, parce que j'ai souvenir notamment de ce fameux match avec Khalil Mack qui doit faire 6 sacks. Je crois que c'était contre les Raiders. De mémoire, j'ai un doute, mais voilà, on a déjà vu des éclairs notamment sur cette ligne défensive qu'on attend quand même de pied ferme. Là, tout le monde a quand même été au rendez-vous. Bosa, Mac, même Tuli Tupulotu, le rookie a été en verve sur cette partie-là. Donc honnêtement, oui, je rejoins Raph, parce que malheureusement en face, l'attaque était absolument catastrophique. Mais voilà, à mon sens, les Chargers vont pas s'excuser dans un match qui était ultra capital, parce qu'ils pouvaient se retrouver à 2 matchs des Jets en cas de défaite. Là, ils se relancent très clairement dans la conférence AFC. C'était le moment parfait pour le faire. Surtout que l'attaque n'a pas été extraordinaire. Ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, clairement, on ne va pas cracher dessus du côté Brandon Staley.
Mais tu peux aller tout de suite sur l'attaque. On parlera des Jets après. Seulement 191 yards pour l'attaque des Chargers, en effet. 136 yards pour Justin Herbert. Après, ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup plus. Ils ont récupéré quelques ballons en bonne position.
C'est ça aussi.
Ils mettent les points qu'il faut. Ils ne perdent pas de ballons. Et puis basta, quoi. Il n'y avait pas forcé. Et ça reste une très bonne défense des Jets en face.
Oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça. Mais ça, là encore, là, on va dire que ces dernières semaines, on est un petit peu pantois, sceptique devant les Chargers, parce qu'on voit une défense qui, globalement, a l'air de sous-performer. Et une attaque qui a l'air d'être à peu près dans le même registre. Donc c'est sûr que là, sur ce match-là, on a une défense des Chargers qui a été ultra au rendez-vous. L'attaque, oui, ils ont bonifié. Alors, on n'arrive toujours pas à savoir si on a un Justin Herbert à 100%. J'ai du mal quand même à le croire. On a vu qu'il avait eu quelques petits moments assez intéressants avec des improvisations au sol qui lui ont permis notamment d'aller chercher des jeux importants. Il va se connecter également avec Keenan Allen en fin de rencontre sur une première tentative très importante pour les Chargers, enfin en tout cas qui permet en tout cas de rester assez confortable d'un point de vue score. Mais à partir du moment où en effet la décision était faite très rapidement en faveur des Chargers, il n'y a pas besoin de forcer son talent offensivement.
Raphaël, pas inquiet de la prestation offensive des Chargers, j'ai pas l'air de lire de l'inquiétude sur ton visage.
Non, pas forcément. Il y a eu quelques bonnes séquences. C'est face à une défense quand même des Jets compliquée à manœuvrer, hein, qui a mis en difficulté Patrick Mahomes, Jalen Hurts. Enfin voilà, je veux dire, beaucoup de quarterbacks se sont cassés les dents sur cette défense depuis le début de la saison. Bon, bah, Herbert se casse aussi un peu les dents dessus. Je trouve pas ça plus inquiétant qu'autre chose. Après, effectivement, il y a ce problème au doigt hein, qu'il a et qui, peut-être sur la saison à long terme, peut devenir gênant. On va voir, mais c'est, à quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour une fois que les Chargers soient capables de gagner sans l'attaque et sans Justin Herbert, j'ai envie de dire. C'est bien de temps en temps que ça arrive aussi, quoi.
Greg, tu disais on va parler de l'attaque des Jets plus tard, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose? C'est-à-dire que Zach Wilson prend 8 sacs parce que bah il en laisse venir et puis il se passe rien, quoi.
Bah ouais, après, alors ça c'était une déclaration de Robert Saleh après le match et je vais pas dire que la prestation de Zach Wilson est satisfaisante, mais c'est une prestation offensive globale qui est pas bonne. La ligne offensive a été en dessous de tout. J'ai en tête d'ailleurs le sac de Joey Bosa où il est à moitié en train de repousser Laken Tomlinson et d'agripper Zach Wilson. Quand t'as des linemen comme ça, bon bah ça devient quand même un petit peu compliqué, sachant qu'on sait que Zach Wilson n'est pas non plus le quarterback le plus mobile de la ligue.
Il n'a pas été aidé, c'est
non, il y a un fumble assez coûteux de Garrett Wilson également en début de match. Hein, donc voilà, malheureusement, après, les Jets sont partis dans cette caricature offensive où bah, ils ont couru après le score. Donc bah, forcément, ils ont fait surlancer le ballon à Zach Wilson. Et on sait très bien que de toute façon, ça ne marche jamais dans ce genre de situation. Les Jets ont besoin avant tout, à mon sens, de jouer du ball control pour être vraiment efficaces et gagner les matchs offensivement. Donc là, voilà, ça... À mon sens, ça a pas, comment dire, c'est pas la prestation de Zach Wilson dans elle-même qui pose problème, mais malheureusement, le scénario a fait que bah, l'attaque a jamais vraiment pu se remettre dans le bon rythme.
Je réalise que Zach Wilson, comme si Jay Stroud est un deuxième choix de la draft.
Tout à fait.
Voilà. C'est un beau symbole de l'incertitude, la glorieuse incertitude de la draft, hein, parce que si Jay Stroud, Zach Wilson, c'est quand même pas la même chose. Raphaël, quelque chose à ajouter sur cette attaque des Jets qu'on...
Non, pas vraiment. Grégory l'a dit. Je pense que y a une sous-utilisation de Brissol, notamment en début de match, qui moi me pose problème. Après, le souci, c'est que bon, en plus d'être mauvais, le quarterback, je trouve Greg un peu gentil parce que le quarterback est vraiment vraiment mauvais.
Tu découvres. Enfin. Moi, pour moi,
non, on le découvre pas. C'est au coach de l'aide de s'améliorer.
Honnêtement, de ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est pas le pire match que je vois de Zach Wilson. Mais malheureusement, sur ce match-là, encore une fois, il est mis dans un contexte où, avec toutes les pertes de balles et le fait que les Chargers ont fait la course en tête et ont eu rapidement 14 points d'avance, après, on le fait jouer dans un registre où on commence à savoir clairement que bah c'est pas lui qui va faire gagner l'équipe. Donc si on essaye de lui donner le rôle du héros, forcément c'est lui qui sera en premier lieu, c'est lui qui sera en première ligne, on dira. Mais c'est pas à mon sens, c'est un match plus catastrophique qu'un autre. C'est que voilà, il y a un scénario qui fait que bah lui, la ligne, toute l'équipe globalement a pas forcément été au rendez-vous de ce match-là, ou en tout cas peut-être trop tard.
Tout le monde a coulé. Après, tu parlais des pertes de balles, il y en a deux pour lui hein, quand même aussi.
Ah oui, oui. Après, voilà, il y a un strip, il y a un fumble sur un sac de Joe Epos. Voilà. Mais encore une fois, je vais pas vous dire qu'il a fait un bon match. Ce serait ridicule de ma part.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Dans l'absolu, on n'a rien appris sur lui. Le sujet, c'est que tout autour, c'était très mauvais aussi. Donc,
c'est ça. Même Garrett Wilson, qui est la valeur sur offensive, malheureusement, sur ce match-là, il leur coûte un turnover. Donc, ça remet rien en cause, mais c'est problématique.
On part chez les Panthers qui recevaient les Colts. 13 pour les Panthers, 27 pour les Colts. Alors, on a beaucoup parlé des bonnes prestations de CJ Stroud en début d'émission. Ça se passe beaucoup moins bien pour le seul joueur qui a été choisi avant lui à la draft. 3 interceptions pour Bryce Young, 2 retournées par un touchdown par Kenny Moore. Indianapolis a mené tout le match. Le deuxième pick 6 les met à 27-10 dans le dernier carton et ça tue la rencontre. Est-ce que Bryce Young déçoit? Grégory, tu es l'expert draft. Il est à 24 sur 39, 173 yards, un touchdown et 3 interceptions.
Alors, j'ai été clément avec Zach Wilson. Je vais pas vous dire que Bryce Young est une cause désespérée. Maintenant, oui, clairement, il est pas bon depuis le début de la saison. Mais moi, c'est pareil. Je suis plus interloqué, plus globalement, parce que je vois des Panthers. On rappelle que c'est une équipe qui est sortie de semaine de repos la semaine dernière avant de recevoir Houston. On a donné les clés du play call offensif à Thomas Brown pour justement. Enfin, Frank Reich a décidé justement de se retirer cette responsabilité-là pour donner une nouvelle. Pour insuffler un vent nouveau, j'y arrivais, pardon, en attaque du côté de Carolina. Bah, je suis pas convaincu par ce que je vois depuis 2 semaines maintenant. Il y a des appels de jeu qui sont extrêmement compliqués. En défense, si j'anticipe un petit peu, c'est une équipe qui concède 11 premières tentatives rien que sur des pénalités. Donc offensivement et défensivement, je trouve qu'il n'y a rien qui va du côté de cette équipe de Panthers, des Panthers. Et on parlait de mettre un rookie dans les meilleures dispositions tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, avec CJ Stroud justement à Houston. Moi, pour moi, au-delà du talent intrinsèque du joueur qui peut être remis en question par rapport à Stroud, il y a un contexte aujourd'hui à Carolina qui pour moi n'est pas favorable.
Raphaël, pareil, le coaching plus qu'autre chose ?
Oui, je suis un peu d'accord. Alors, plus qu'autre chose, je sais pas. Et Grégory l'a dit aussi, il prend des mauvaises décisions. Il y a notamment une interception qui doit pas lancer. Et c'est l'erreur vraiment de qu'on n'aime pas voir chez un quarterback, même un rookie. Mais comme on le dit aussi, ligne offensive en difficulté, le jeu au sol qui se cherche, un Frank Reich qui a laissé les jeux offensifs. Ok, mais ça donne pas de résultat. Et la défense n'est pas là pour aider. La défense n'est pas là pour créer de dynamique, pour le mettre en bonne position, contexte compliqué. Et il va souffrir de la comparaison avec CJ Stroud. Et on sait que des fois, je vais pas dire que Bryce Young du coup va s'écrouler à cause de ça, mais on sait que des fois, l'aspect psychologique a aussi sa part. Et quand on va te répéter H24 que t'aurais pas dû être pris en 1, que c'est l'autre qui est meilleur, tout ça, bah peut-être que ça peut finir par jouer. Alors s'il craque, c'est peut-être qu'il avait pas ce qu'il faut du coup pour être titulaire. On pourrait aussi dire ça. Moi, on peut avoir plusieurs analyses, mais ça peut finir par jouer à un moment. Ce côté, ok, c'est pas toi le cador, quoi.
Heureusement que Carolina a battu Houston la semaine dernière, parce que là, il sera en train de se faire découper en rondelles, le pauvre Bryce Young à l'heure actuelle.
Ouais.
Après, sinon, il y a aussi des fois le cas où les deux premiers choix de la draft se poussent mutuellement vers le bas, comme James Winston et Marcus Mariota. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment, messieurs. En face, les Colts gagnent avec seulement 198 yards en attaque. Le jeu au sol a été bien contenu. Il y a 14 points donc qui sont pour la défense, hein, quand même, sur les 27. Est-ce que c'est une victoire heureuse d'Indianapolis? Non, moi, Raphaël.
Non, je trouve pas heureuse, parce que heureuse, ça voudrait dire que, à mon sens, hein, après, j'ai peut-être pas mal compris le terme, mais pour moi, heureuse, ça voudrait dire qu'ils auraient pas forcément dû gagner ce match. Alors que pour le coup, il y a pas débat. Enfin, ils sont meilleurs en attaque, ils sont meilleurs en défense, ils le gagnent sans démériter ce match. Donc pour moi, c'est pas une victoire heureuse, mais c'est le bon scénario de match, quoi. C'est un Garner Minshew qui a pas besoin d'en faire trop. C'est une défense qui crée quelques turnovers pour aider aussi. Et voilà, c'est en ce sens-là qu'ils sont heureux peut-être. C'est que le scénario, tout va dans le bon sens. Mais après, franchement, ce match, ils le dominent facilement, hein. Ils sont en tête tout le temps. Donc, honnêtement, il n'y a pas eu match.
Oui, puis il y a un peu d'alternance offensive. Hein. Pour une fois, on n'a pas fait lancer 50 ballons à Garner Minshew. Donc, bizarrement, on arrive à bonifier derrière le travail qui est fait par la défense. Mais voilà, on le sait, c'est une équipe très jeune également, les Colts, qui joue crânement sa chance. Il avait déjà démontré à Baltimore en début de saison. Donc voilà, ce ne sera pas d'une constance folle, surtout avec certains choix du coaching staff que je trouve un peu discutables. Mais là, sur ce match-là, face à un coaching staff encore plus discutable, les choses se sont bien passées pour les Indianapolis Colts.
Ouais, Garner Minshew qui lance un touchdown, aucune interception. Voilà, petit match offensif, mais ça passe. Saints 24, Bears 17, pas de sac encaissé, pas de ballon perdu, une seule pénalité. Les Saints ont fait dans le très propre ce dimanche. Malgré ça, les Bears ont eu 4 fois le ballon pour aller égaliser en fin de match, mine de rien. Heureusement pour New Orleans, Chicago a fait interception, punt, fumble. On dit merci la défense quand même, Raphaël.
Oui, on dit merci la défense en deuxième mi-temps. Autant en première mi-temps, cette défense des Saints s'est un peu fait découper par Cole Kmet et par Bagent sur les courses. Ils ont vraiment eu du mal à défendre sur le quarterback mobile. Mais après, en deuxième mi-temps, t'as un Paulson Adebo notamment qui fait un très très gros match. Et c'est ça qui permet de relancer totalement l'équipe. Parce que pour le coup, l'attaque, alors là, en deuxième mi-temps, disparaît progressivement. Et si t'as pas cette défense qui empêche finalement de Chicago d'avoir d'autres opportunités, tu peux potentiellement perdre le match, parce que l'écart est pas énorme malgré toutes les pertes de balles provoquées. Donc c'est qu'il y a eu un vrai souci en attaque pour bonifier ça. Donc oui, merci la défense en global, mais ça a été un réveil un peu tardif quand même en défense.
Grégory, seulement 3 points autorisés après la pause et 5 ballons volés. Tyson Badgent, on l'a dit, a été intercepté 3 fois. Il a aussi perdu un fumble. Il a vécu un calvaire en fin de match. Il va probablement retourner sur le banc, Tyson Badgent. C'est quoi le bilan après les matchs qu'il a joués, après ce match-là?
C'est assez correct à mon sens. Hein. C'est un joueur, encore une fois... Il est quoi, 7e tour? Je suis même pas sûr qu'il soit drafté, Tyson Benjamin.
Non, je ne vois pas.
J'avoue que je sèche un peu là-dessus, j'en suis désolé. Mais
je vais te dire ça.
Mais honnêtement, pour un joueur qui était vraiment pas attendu pour être lancé dans le grand bain comme titulaire dès sa première année. Je trouve qu'il n'a pas démérité dans cette équipe des Bears en plein marasme, hein, qui, on rappelle, vit quand même une saison pour le moins compliquée, hein, avec un coordinateur défensif qui est écarté pour des histoires d'enquête un petit peu obscures. Un coach des running backs qui a été exfiltré également la semaine dernière. Donc il y a quand même pas mal de situations un petit peu délicates en interne. Là encore, toujours la question du rookie qu'on met dans les meilleures dispositions. Je trouve que voilà, il a soufflé le chaud et le froid, mais encore une fois, pour un joueur qui était censé être un projet, un joueur potentiellement à développer dans l'ombre d'un autre joueur, je trouve qu'en l'absence de Justin Fields, il a rendu une copie assez propre. Il participe notamment à la victoire face aux Raiders notamment. Donc voilà, les Bears peuvent se dire qu'éventuellement, à l'inverse de Tommy DeVito, s'il y a besoin d'un quarterback numéro 2 éventuellement potable.
Je te trouve quand même vachement sympa, mais je sais que tu es un homme positif, mais on parle d'un mec qui a 3 touchdowns pour 6 interceptions. Alors je sais que ça joue pas bien autour. Hein,
mais on parle d'un quarterback numéro 2, alors.
Oui.
Si il lançait pour 20 TD et 5 interceptions, il serait quarterback numéro 1 depuis un petit moment, quoi. Donc.
Non, très bien, mais bon.
Mais voilà, et moi je trouve que en plus sur ce match-là, il contribue sur le jeu au sol. Voilà, c'est un joueur qui paye pas de mine. Je te dis pas que ce sera la future star de demain. Je pense qu'on l'a vu toi et moi. Mais voilà, je trouve que honnêtement, ça tue dans l'œuf toute possible controverse sur le fait de dire est-ce qu'il va y avoir bataille avec Justin Fields, parce que personne n'y croyait réellement. Mais en même temps, ça peut être une option viable pour les mois à venir du côté de Chicago.
Alors revenons sur New Orleans avec toi notamment Raphaël. Derek Carr est propre de 111 yards, de touchdowns, aucune interception. Ça manque un peu de jeu au sol pour asseoir leur domination, j'ai l'impression, sur ce match. Mais sinon, il y avait des bonnes choses.
Il y avait des bonnes choses en première mi-temps, hein, j'insiste, mais c'est en première mi-temps qu'offensivement ça fonctionne. En deuxième, il n'y a quand même plus grand-chose. Il y a beaucoup de punts, il y a un field goal raté. Enfin, c'est beaucoup moins bon en deuxième mi-temps. Après, c'est sûr que si on compare avec le tout début de saison, c'est toujours un peu mieux.
C'est un peu ce qu'on demandait à Carr, tu vois, de ne pas être James Winston.
C'est vrai.
D'avoir une attaque qui est stable.
Oui, non, là-dessus, je te rejoins. C'est vrai qu'il ne commet pas d'erreur et c'est déjà une différence par rapport à l'an dernier. Et ça leur permet de gagner ce match pour le coup. Donc là-dessus, contrat, on va dire, rempli. Après, comme tu dis, peut-être qu'il manque un peu de camarade. Je trouve que là, c'est... Michael Thomas, c'est transparent, zéro réception. La semaine d'avant, c'était Chris Olave. Je trouve ça encore un peu dommage. Ils n'arrivent pas forcément à toujours avoir tout le monde impliqué. Par contre, ce qui n'est pas si mal depuis 2 semaines, c'est qu'ils arrivent quand même à bien utiliser Taysom Hill aussi sur des jeux un peu particuliers.
Alors, j'allais le dire, il fait un truc magnifique, Taysom Hill.
Donc, je veux dire, c'est pas inutile, quoi. C'est pas mal.
Taysom Hill, il est en train de faire un truc qui est à la fois étrange et beau. Un touchdown à la passe, 11 courses pour 52 yards, 4 réceptions pour 13 yards et un touchdown. C'est quand même de l'inédit. J'ai pas l'impression qu'un mec ait été utilisé de manière gadget aussi largement. Je pensais que ça allait un peu s'estomper d'ailleurs avec l'arrivée de Derek Carr, mais Greg, on est sur du full Taysom Hill, hein, sur ce match.
Oui, alors après je rejoins Raph un petit peu, parce que le souci, c'est que quand tu le vois autant utilisé au sol, tu peux te poser des questions sur les autres armes, surtout avec un Derek Carr qui globalement depuis le début de la saison est décevant, donc ce serait bien d'avoir un jeu au sol capable d'apporter une vraie alternance justement pour rendre cette attaque un peu plus létale. Mais oui, après voilà, les armes de Taysom Hill, on les découvre pas, visiblement on n'arrive toujours pas à avoir un plan anti-Taysom Hill, et je te rejoins, peut-être depuis Cordell Stewart aux Steelers, je pense qu'on n'a pas forcément eu un profil... aussi polyvalent, capable de performer dans différents registres.
Donc là, il faut que tu donnes l'année, parce qu'on commence à être sur
dans les années 90, Cordell Stewart.
Voilà, certains de nos auditeurs sont pas nés, je crois. Cordell Stewart, 95 à 2002, voilà. Aux Steelers, en effet. Mais quel puits de science, ce Grégory.
On fait ce qu'on peut. Après, voilà, c'est quand même assez réputé à l'époque du côté des Steelers. Mais oui, quarterback de formation et qui avait fini receveur, mais aussi capable de dépanner dans le backfield offensif. Donc voilà. Mais là, en tout cas, où est-ce que fait Taysom Hill, je te rejoins, c'est costaud.
Allez, on enchaîne avec les Falcons 28 et les Vikings 31. Un match complètement fou. Atlanta menait 11-3 après une pluie de field goal, vu qu'il n'arrêtait pas de caler dans la zone rouge. 21-13 dans le troisième quart-temps après un touchdown de Jonnu Smith. Et là, Joshua Dobbs surgit. Touchdown au sol, un à la passe pour Brandon Powell à 22 secondes de la fin pour arracher la victoire. Dobbs qui signe un truc de fou puisqu'il était arrivé 5 jours avant dans un échange. Il avait joué la semaine dernière pour les Cardinals en tant que titulaire. Là, il ne devait pas jouer, il arrive en cours de match. Hein. Il y a la blessure du rookie Chad. C'est Chad, non, c'est
Jaren Hall.
Jaren Hall, pourquoi je veux chat Jaren Hall, pardon, qui se blesse rapidement. Il faut lui reconnaître beaucoup de cœur, Raphaël, et il vient quand même de briser cette illusion hein, qui est le playbook, c'est ultra compliqué, il faut que les mecs se préparent pendant des mois. Il vient de faire tomber le
non,
le
mais
beat, là.
En tout cas, faut effectivement lui reconnaître vraiment du cœur, parce que pareil, hein, Arizona, il arrive, on lui dit vas-y, monte sur le terrain, tu vas être titulaire sans avoir beaucoup d'armes, il y va de gaieté de joie et il donne ce qu'il a. Donc ça, on peut pas lui reprocher. On voyait d'ailleurs pendant le match hein, les images où il répétait les snaps avec le centre parce qu'ils avaient même pas eu le temps de travailler ça. O'Connell lui expliquait un peu deux trois trucs, donc c'était.
Est-ce que tu vois venir le documentaire ou alors le film adapté où on lui dira où tu verras O'Connell qui lui dit joue comme si t'étais avec ton père. Il court vers la buick et tu lui lances le ballon. Tu sais, genre, il s'explique les trucs en dessinant par terre
peut-être,
et tout.
Ouais.
Tu sais,
non,
genre,
mais...
tu es dans ton jardin en Alabama.
Écoute, il y aura peut-être un film sur Dubs un jour. Je lui souhaite, hein, bien entendu. Mais après, là où j'irais peut-être un peu moins, c'est pas tant le playbook que finalement, je pense avoir un bon coach offensif qui est capable de te mettre dans des conditions faciles pour que le jeu paraisse simple. Et c'est ce qu'on voit dans plein d'équipes, ça marche pas. Le quarterback a l'air perdu, les appels de jeu sont pas bons. Et O'Connell, quand même, depuis qu'il est arrivé à Minnesota, offensivement, c'est jamais un problème pour les Vikings. Enfin, je veux dire, depuis 3 semaines, ils avaient pas Justin Jefferson, ils arrivent à marquer des points. Là, ils avaient pas Kirk Cousins, ils arrivent à marquer des points. Donc, faut aussi rendre du crédit à O'Connell sur ce qu'il est capable d'obtenir avec toutes ses blessures, à l'opposé d'un coach de l'autre côté du terrain, d'une autre équipe, qui, à mon avis, n'en fait peut-être pas assez avec ce qu'il a, mais c'est un autre sujet.
On va finir le dossier Minnesota parce que je vois Greg qui boue doucement. Il dit rien, il a un doigt sur la tempe comme ça, il attend. Juste quand même reconnaître aussi le mental hein, de Joshua Dobbs parce qu'il rentre, il prend un sac pour un safety, il se fait arracher un ballon, tout ça avant d'avoir complété une passe.
C'est vrai.
Donc il a un mental aussi, le mec de dingo. Hein. Bon, ceci étant dit, donc énorme occasion manquée. Alors si juste une aparté, Jaren Hall, il commence quand même avec un 5 sur 6 sur 78 yards. C'était pas mal avant qu'il prenne une commotion en plus. Le pauvre Jaren Hall, ça revient à ce que tu disais, Raphaël. Kevin O'Connell avait fait du bon boulot, même avec son rookie.
Pour moi, ça revient à ça. C'est qu'on a un rookie qui avait l'air d'être bien préparé, bien coaché, et à qui on demandait de ne pas faire de choses trop compliquées. Et on avait un plan de jeu bien ficelé. Donc, ça, ouais, effectivement, ça revient à ça.
Alors, Grégory Richard, c'est à vous. Ceci étant dit, donc je le disais, énorme occasion manquée pour les Falcons. Ils sont 1 sur 2 dans la red zone. Ils ont 4 field goals. Et si c'est un peu plus efficace dans les derniers yards, en fait, ça passe, cette histoire.
J'en ai bien peur, oui. on est obligé de parler de ce match. oui, bah ça, c'est sûr que l'efficacité en zone rouge a été un énorme problème. Tu l'as cité en introduction. Il y a énormément de choses que je comprends pas. Alors, que Minnesota ait joué crânement sa chance et en effet que Joshua Dobbs ait réussi à se remettre dans le bon sens après les différents coups durs, on va dire, qu'il a subi dès ses premiers jeux, c'est en effet extrêmement costaud et c'est à mettre à son crédit et au crédit justement du coaching offensif, comme le signalait Raph. Maintenant, j'aurais du mal à occulter le fait que Atlanta, pour moi, a donné ce match. Atlanta a donné ce match dans le sens où quand il faut mettre la tête de ton adversaire sous l'eau, tu ne le fais pas. Ils arrivent à un moment donné, après le touchdown de Jonnu Smith, à mener 21-13, et derrière c'est une cascade d'erreurs avec le fumble de Robinson et l'interception d'Heinicke, histoire de bien redonner le momentum aux Vikings. C'est à l'image du dernier drive et du touchdown notamment de Brandon Powell, mais il y a eu une défense absolument abyssale sur ce match-là en termes de plaquage qui s'est effondré notamment en deuxième mi-temps. Donc je veux bien que Joshua Dobbs soit un quarterback assez mobile et insaisissable à l'image du touchdown au sol qu'il inscrit, mais là on était quand même en termes d'école de plaquage, je crois que là c'est niveau CP. Donc voilà, il y a plein de choses éventuellement qui rentrent en considération. Ta défense est pas bonne, et moi je veux bien qu'on mise sur un 8e choix de draft pour aller prendre un running back, sachant que le jeu au sol était déjà performant l'année dernière. Je veux bien que la ligne offensive soit bien moins bonne, on l'a déjà souligné, que l'année dernière. Mais ce n'est pas normal que ton jeu au sol passe au deuxième plan dans ce qui est mis en place, alors que tu en avais fait ton identité clairement assumée l'année dernière. Donc,
la colère est froide.
Oui, non, mais voilà, après, voilà. Je ne suis pas tombé de ma chaise parce que je me disais que Minnesota pouvait être une équipe capable de poser des problèmes à Atlanta. Alors après, c'est sûr que le scénario, te laisse quand même un peu sur ta fin malgré tout. Mais ouais, là je trouve que autant Minnesota a pas volé sa victoire, autant Atlanta a quand même grandement facilité la tâche avec beaucoup trop d'erreurs à mon sens pour espérer repartir vainqueur.
Après, on en revient toujours à la même chose, mais il y a quand même une utilisation des skill players qui est un peu mystérieuse, notamment les joueurs choisis très haut dans la draft. Tu le disais, le jeu au sol, ça devait être l'identité, d'autant plus que tu mènes dans ce match. Mm-hmm. Donc c'est quand même assez étonnant de voir Tyler Allgeier avoir plus de ballons que Bijan Robinson, et 11 ballons, ça reste quand même très très peu pour Bijan Robinson.
Il y a ce souci avec Bijan Robinson, encore une fois, on ne sait même pas s'il est à 100%. Il y a eu ces histoires de migraines depuis le match contre Tampa Bay où on ne sait pas trop dans quel état de forme il est. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, s'il n'est pas à jouer, le fait pas jouer parce que là il te coûte un fumble à un moment justement où tu peux te permettre de jouer un peu plus au sol et de faire couler l'horloge, et c'est extrêmement problématique. Après voilà, le jeu au sol c'est pareil, il y a des quatrièmes tentatives qui sont mal utilisées. J'ai souvenir de celle de Tyler Allgeier en position goal line où tu recules de 4 yards alors que t'es quand même dans une situation où tu dois marquer des points. Il y a des appels de jeu qui sont complètement contre-productifs, et je te rejoins, je te laisse reprendre ton propos après, mais en effet, il y a une utilisation des jeux, des running backs plus globalement, qui moi me paraît erronée.
J'allais dire, pour les migraines, c'est peut-être un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant. Est-ce que c'est parce qu'il a mal au crâne qu'il ne joue pas, ou est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas qu'il essaie de comprendre son usage qu'il a mal au crâne?
C'est peut-être les deux, oui. Il y a une piste à creuser, ouais, mais.
Pour Kyle Pitts, c'est pareil. Je pense que Pitts, il s'attendait pas à ce que ce soit Jonnu Smith son. Enfin, tu vois, il s'attendait pas à être le lieutenant de Jonnu Smith, je pense.
Oui, bon, après, Jonnu Smith, il fait un gros gain qui lui permet d'aller au touchdown, mais globalement, les deux ont été sollicités à peu près pareil. Taylor Heinicke fait pas un si mauvais match que ça, même s'il y a son interception très moche, forcément, qui coûte très cher à l'arrivée. Mais oui, là, je pense qu'il y a une grosse remise en question de la part d'Arthur Smith, parce que sinon, la fin d'expérience à Atlanta pourra arriver plus vite que prévu.
Raphaël, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le coaching d'Arthur Smith? Donc, je sentais dans ton viseur.
Non, un petit peu dans mon viseur. Non, mais effectivement, moi, c'est cette utilisation. Enfin, je pense qu'il est vraiment en danger parce que l'équipe, sur les deux dernières saisons, donc il a 7 victoires à chaque fois. Là, vu le calendrier, vu ce qui reste, il risque encore une fois d'être autour de 7-8 victoires, donc pas vraiment de progrès. Pourtant, les ressources sont allouées au niveau de l'attaque, à la draft, on en a déjà beaucoup parlé. Et cette utilisation, je pense, peut devenir problématique. Grégory l'a mentionné, mais cette série offensive qu'il commence sur les 1 yard de Minnesota, où t'as pas un ballon pour Bijan Robinson, je sais pas, ça m'intrigue. Ni de passe pourtant Kyle Pitts avec son physique, il me semble que sur une petite screen pass ou quelque chose comme ça, tu dois pouvoir obtenir quelque chose. Je sais pas, je suis un peu. Et je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut coûter cher à Arthur Smith de ne pas donner d'explication sur comment il utilise des joueurs qu'on lui a donnés et qu'on est allé chercher haut. Donc je suis intrigué par tout ça et j'attends de voir la suite.
D'ailleurs, en l'occurrence, en effet, ça pourrait être une manière de se sauver un peu s'il disait si Bijan Robinson est vraiment blessé, par exemple.
Oui. C'est parce que le botter en touche sans arrêt, oui, c'est sûr qu'il ne se rend pas service d'un point de vue commun.
Pour le dédouaner un peu. Les Packers 20, Rams 3, les Rams qui n'avaient pas Matthew Stafford, et ça s'est un peu vu. Comme le jeu au sol n'a pas été productif, Brett Ripien s'est retrouvé exposé. Brett Ripien termine à 13-28, 130 yards, d'une interception. On est sur quand même du vide. Alors on parlait de coach qui arrive à faire beaucoup avec peu. Sean McVay, il a déjà réussi, mais là, 187 yards au total. Il pouvait rien faire, Raphaël, visiblement, avec Ripien en dernière minute. Les coureurs, c'est Royce Freeman.
Oui, non, mais voilà, là, c'est trop limité au poste de quarterback. Et à partir du moment où le jeu au sol n'arrive pas à gagner suffisamment de yards comme ils arrivaient à le faire en début de saison, l'attaque est vite limitée et derrière, ça s'enraye. Et ils ne sont pas capables de profiter de quelques erreurs de Green Bay. Et voilà, rien de, comme tu dis, difficile de faire autre chose avec ça, quoi.
Grégory, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour les Rams?
Non, malheureusement pas grand chose. Offensivement, c'était pas bon, sur les équipes spéciales non plus dans mon souvenir. Donc ouais, là c'est vraiment un match à oublier du côté de Los Angeles. A priori, il y a une semaine de repos qui arrive pour les Rams. C'est le retour de Matthew Stafford qui est espéré pour la réception de Seattle, si j'ai bonne mémoire. Donc va falloir espérer que Sean McVay remette un petit peu d'ordre dans la maison Rams, parce que ça fait plusieurs semaines de suite où on commence malheureusement à retrouver le niveau des Rams qu'on pressentait en début de saison. Donc ça peut être problématique pour une équipe qui avait quand même des grosses chances en début d'année de pouvoir éventuellement avoir un spot en wild card en fin de saison régulière.
Oui, en étant optimiste.
Bah, la 7ème place, elle est plus ouverte que jamais. Hein. On a parlé de Minnesota, qui a priori, pour l'instant, a l'avantage. Mais bon, derrière, j'écarterai pas les Rams, les Commanders ou ce genre d'équipe qui, en fonction des matchs qu'ils gagnent, peuvent se replacer.
Les Packers, c'est ce que tu les écartes. Ils ont mené tout le match, malgré deux ballons perdus, 8 pénalités, seulement 1 sur 4 dans la zone rouge. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé les coordonnées d'Aaron Jones et du jeu au sol sur ce match. C'est un peu la leçon. On parlait de mettre dans les bonnes conditions depuis le début de l'émission. C'est un peu un thème, mettre les jeunes dans les bonnes conditions. Bon, bah là, Jordan Love, il a moins à en faire, ça se passe mieux. C'est un peu la leçon, Raphaël.
Oui, c'est même complètement la leçon. Hein. La semaine dernière, déjà, la Fleur expliquait je dois utiliser plus Aaron Jones, c'est ma faute. Bon bah dont acte, il le fait cette semaine et ça aide forcément cette attaque parce que le jeu aérien on le voit, hein, qui est quand même encore un peu hésitant. Il y a vraiment des passes hors tempo, tout ça, des passes mal ajustées de Love et des problèmes de connexion avec ses receveurs. Donc ça fait beaucoup de bien. On a même enfin vu un peu AJ Dillon, hein, qu'on voyait pas beaucoup depuis le début de saison. Alors 9 portées c'est pas énorme, mais on voit que mine de rien il a un peu d'efficacité. Donc je pense que là la Fleur a sa ligne directrice jusqu'à la fin de saison et il faut qu'il s'y tienne.
Grégory, on reste là-dessus, du jeu au sol et un Jordan Love du coup plus à l'aise et plus serein.
Oui, de l'alternance offensive tout simplement. Je pense que c'est pas la peine de forcer la décision. Voilà, là faut espérer que Aaron Jones soit vraiment à 100% et on voit quand même la différence mine de rien par rapport à ce qu'on pouvait voir cette dernière semaine. La défense peut être très très solide, donc je pense que cette équipe des Packers, elle vaut pas forcément l'affiche qui est la sienne aujourd'hui. Mais voilà, on verra face à un adversaire un peu plus calibré, peut-être apte à mettre plus de pression par exemple sur la O-line ou ce genre de choses. Mais voilà, essayer de se remettre un petit peu en confiance avec ce succès, c'est clairement bienvenu du côté des Packers.
On termine avec les Patriots, 17 Commanders, 20. Les Commanders qui ont intercepté Mac Jones en fin de match pour assurer la victoire. Les Patriots ont mené 17-10 dans ce match, mais Washington a fait juste ce qu'il fallait pour repasser devant. Honnêtement, la défense de New England fait ce qu'il faut, c'est l'attaque qui est toujours trop faible. Grégory.
Oui, alors la défense fait ce qu'il faut. Il y a quand même 325 yards de Samuel sur ce match-là, hein, donc ça continue en tout cas sur la bonne lignée après sa bonne prestation face aux Eagles. Après, c'est sûr que si on pointe une escouade un peu plus en difficulté que l'autre, bah forcément ça va revenir de nouveau du côté de l'attaque qui n'a pas été capable d'être clutch et d'être décisif quand il faut, avec toujours ces éternels problèmes sur la position de receveur. En plus, manque de bol pour eux, ils tombent sur une semaine où Emmanuel Forbes, qui est en difficulté depuis le début de la saison, nous sort presque son match référence depuis son arrivée dans la Ligue. Donc ça n'a pas aidé en tout cas à mettre en confiance cette attaque de New England et de Mac Jones. On se répète un petit peu, mais oui, on file quand même tout droit sans doute vers la dernière année de Mac Jones du côté de Foxborough.
Ah ouais, t'en es là.
Le contenu est quand même assez mince. Bon, tu me diras, le jeu au sol, c'est toujours un petit peu compliqué de dire ça, mais tu te retrouves avec un Stevenson qui, hormis sa course de 64 yards, n'est pas hyper productif. Le jeu au sol, globalement, n'a pas été autant utilisé. Hein, donc après, on en revient aussi au choix un petit peu étrange de Bill O'Brien dans un match où t'es pas largué d'un point de vue score. Mais je pense que c'est un duo qui n'est pas fait pour fonctionner cette année à New England, en tout cas dans les délais qui leur seront impartis, et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir tourner la page du côté des Pats.
Raphaël, on rappelle qu'ils affrontaient une défense de Washington qui venait de laisser partir Montez Sweat et Chase Young, donc en plus, sur le papier, il y avait quelque chose à faire, mais ils sont juste pas capables.
Ouais, c'est ça, ils sont pas capables, ils ont pas les armes offensives, ils ont pas visiblement la combinaison, j'ai envie de dire, qu'il faut d'un point de vue... coaching, etc., ça marche pas, on l'a vu. Enfin, il y a un moment quand même, les deux receveurs sur le terrain, c'est Raegor et Thornton. Enfin, genre, t'as des snaps où tu joues avec ça au niveau receveur en NFL. Bon, bah, voilà, compliqué.
C'est compliqué. Du côté des Commanders, est-ce qu'on commence à croire à un futur avec Sam Howell? 29 sur 45, 325 yards, un touchdown, une interception. J'ai un trou sur le joueur, il y a un des joueurs de Washington qui a dit on a trouvé notre franchise quarterback. Après le match. Ah, Greg est dubitatif.
Non, je ne savais pas qui était le joueur en question. C'est surtout ça.
Je me souviens plus, je l'ai vu passer, mais.
Mais c'est pas impossible. Pardon, vas-y, ouais. C'est Raphaël.
Bon, Raphaël, franchise quarterback ou pas, en tout cas, est-ce que sur ce match-là, tu vois des choses qui sont encourageantes?
C'est sa deuxième bonne sortie de suite, j'ai envie de dire. Donc, il gagne un peu en régularité, ce qui est forcément encourageant là-dessus. Donc, j'ai envie de te répondre oui pour le coup. Voilà, après, ça demande encore de la confirmation, tout ça, mais c'est un peu les mêmes qualités que ce qu'on a vu depuis le début de saison et les mêmes défauts. Donc voilà, peut-être franchise quarterback, je sais pas, mais en tout cas, au moins, il commence à gagner en régularité, ce qui est positif.
C'est Jonathan Allen qui l'a dit, Greg.
D'accord, bah écoute. Je salue son optimisme. Après, voilà, faut aussi rappeler un petit peu le contexte. C'est sûr que il y avait un espèce de casting grandeur nature pour Sam Howell qui a été un peu propulsé titulaire avec une seule sortie comme starter l'année dernière. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle déjà pour Washington, c'est que c'est pas une catastrophe absolue et que très clairement, c'est pas infamant de le mettre derrière un centre aujourd'hui pour démarrer un match NFL. Donc c'est aussi en ce sens-là qu'on peut parler de franchise quarterback. Après, la question, c'est toujours pareil, c'est jusqu'à quelle échelle tu considères qu'il a un franchise quarterback et à quel moment il peut franchir potentiellement un palier pour cette équipe de Washington. Je disais tout à l'heure, c'est une franchise que j'écarte pas de la course au play-off vu la possibilité d'avoir une équipe en wild card avec un bilan négatif. Hein. Ça me paraît pas ultra farfelu hein, que le 7e soit avec moins de 9 victoires. Donc ils vont continuer de batailler, a priori avec Sam Howell, qui en plus va chercher pour le coup la victoire contre Philadelphie. Il avait été très bon, mais avec une défaite à l'arrivée. Là, en plus, il y a un succès, même s'il manque peut-être des actions un peu références, mais ça peut venir avec le temps.
Eh bien, messieurs, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 667 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait ces derniers jours. Nico, Greg, Tib, Tom, Grams, Julien Brossillon, Somme 14 et Lille Molikou. Merci beaucoup, messieurs.
C'est un plaisir.
Merci.
On se retrouve dans les jours à venir, évidemment, sur les antennes de TDA. Raphaël, ce sera avec Raoul, c'est toi, sur
la
preview, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est ça. Vous reparlerez des Giants, donc.
Exactement.
Il y aura encore du Giants au programme. Pour nous suivre, tdactu.com, évidemment, vous avez tous les liens, vous avez tout là-dessus. Et si vous voulez aller jeter un œil sur les réseaux sociaux, c'est @tdactu partout, sauf sur Instagram où c'est touchdownactu en entier. Encore une fois, on vous le dit, tdactu.com pour retrouver tous les podcasts et tous les articles. Merci encore, messieurs. À très bientôt à tous sur les ondes de TDActu.
Fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.